Dimanche dernier, j'étais puni. J'étais à un colloque de l'Association francophone européenne de théologiens évangéliques, à Nogent-sur-Marne. J'ignorais qu'elle existât jusqu'à ce qu'il me contacte pour moi. Bref. Et bon, j'en fais part pour vous dire que j'étais notamment très intéressé de voir, ça n'a pas toujours été le cas, de voir plusieurs des personnes présentes impliquées dans ce que j'appellerais des projets scientifiques, enfin bibliques, d'ordre national ou international, à caractère respectable et respecté. Parce que ça veut dire que ces personnes, pour celles qui sont dans ce cas-là, ont été reconnues et ont été admises un petit peu à cause de leurs compétences scientifiques. Et ça n'a pas toujours été le cas. Les évangéliques restent une minorité dans ces cercles, mais sont très souvent une minorité, soit parce que leur attitude de confiance par rapport à l'égard de la Bible fait problème, donc du coup, c'est pas les personnes qu'on va recruter forcément tout de suite, ou soit simplement aussi parce qu'ils sont pas à la hauteur au niveau scientifique. Donc j'ai de la gratitude. La gratitude, enfin j'en avais parlé dans une ancienne prédication dont vous vous souvenez peut-être plus, peu importe, mais parce que je crois qu'il y a besoin de personnes comme ça aussi, de faire entendre un autre regard aussi, et donc avoir la confiance que ces personnes-là parlent, qu'elles savent un peu aussi de quoi elles parlent. Le colloque était consacré à l'évangile de Jean, et une contribution au moins, dont je reprendrai des éléments au début, a mis en chemin ce que je vous propose ce matin. Mais c'est vous que je vais mettre à contribution, donc on va parler de l'évangile de Jean. Et la question que je vous adresse, hello, c'est qu'est-ce qui fait que l'évangile de Jean est différent des autres évangiles, de Matthieu, Marc et Luc? Le volume? La sensibilité à l'amour de Dieu. Okay. Anise. Je vous invite à parler aussi fort, enfin pas aussi fort que vous pouvez, mais voilà, donc je répète. Donc les récits ne sont pas racontés de la même façon. Une question d'ordre, et puis. Les trois autres évangiles sont beaucoup plus proches entre eux. Terme technique, parenthèse, on parle des synoptiques pour les autres. C'est-à-dire, syn, ça veut dire avec la même optique, grosso modo. Beaucoup plus de discours de Jésus. Ruth. Miracle bien choisi. Beaucoup de place laissée à la dernière semaine dans la Passion. Pas de généalogie. Je crois qu'il te semble bien. Ouais. Ouais. Mais il n'y en a pas non plus dans Marc. Donc à ce titre-là, Jean serait proche de Marc. Ma femme encore. Hésite. Ah, j'ai une main là-bas qui se lève. Pierre. Oui. Je suis heureux de pas. Oui, je suis heureux de pas avoir rebondi parce que il s'inscrit dans une certaine généalogie, mais en amont de toute généalogie. Donc c'est ce que dit Pierre. Anne-Lise. Un langage différent. Okay. Plus simple. Ce qui fait. Certains trouvent plus simple, d'autres hésitent, sont en hésitation. En tout cas, il y a quelque chose d'autre. De la clarté. Jean 3,16, oui. C'est ce que Rudy vient d'en parler. Et c'est quoi Jean 3,16? Parce que ça, c'est pour les initiés. Ça, qu'est-ce qu'il dit Jean 3,16? Oui, merci. J'avais vu une main, il me semble, là-bas. Tard. Certes, C'est le premier livre que Tahar a lu. Donc. Je ne sais plus, j'avais perçu une main ici, oui. 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 Donc là, vous auriez été un bon candidat pour le colloque parce qu'il était question de ce genre de choses. Mais il y a aussi des débats sur les communautés qui sont derrière Matthieu, Marc et Luc. Donc, il y a, voilà. Est-ce que vous... Autre chose ? Ah ! L'évangile où Jésus a prié pour nous. Ok. Alors je vous reprends. Vous avez déjà tout dit. C'est même pas la peine que vous alliez au colloque. Donc un des intervenants au colloque est un. Enfin, j'étais très heureux de voir qu'il soit là. C'est un spécialiste international. Et puis voilà, il sait de quoi il parle, quoi. Donc, mettez en avant quelques traits que je vous résume et je vais vous les dire, quasiment vous les redire, parce que voilà, chacun peut le voir. Donc, première chose qui mettait en valeur, il se passe chez Jean moins de choses que dans les autres évangiles. Jean raconte, par exemple, ça a été dit, 8 récits de miracles, tandis que Marc et Luc en rapportent 18 et Matthieu 20. Et comme le disait une personne tout à l'heure, c'est un choix délibéré, parce que Jean dit explicitement que Jésus a fait de nombreux autres signes, mais qu'il ne les raconte pas. Donc c'est un choix. Et on pourrait rajouter que de même, dans l'évangile de Jean, Jésus rencontre moins de personnes. Enfin, il y a moins d'échanges avec des personnes qui sont rapportées, moins de scènes individuelles. Deuxième élément, ce qui correspondait aussi à ce qu'une personne a dit, Jésus est à Jérusalem plus souvent que dans les autres évangiles, sinon. La plus grosse partie du récit se trouve à Jérusalem. Et on peut d'autant le dire d'ailleurs que Jean est sans doute l'auteur qui donne le plus, parmi les évangiles, le plus de précision géographique et chronologique. On sait à peu près, quand on ouvre l'évangile de Jean, si on regarde un petit peu avant, un petit peu après le passage qu'on a, on sait à peu près où Jésus est et à quel moment. Et ça, c'est pas forcément le cas dans les autres évangiles. Autre élément, Jean raconte en suivant assez nettement une trame globale, un enchaînement d'événements qui s'emboîtent les uns les autres, tant et si bien qu'on le voit, cet enchaînement, qu'il est repérable. J'illustre. On nous raconte la résurrection de Lazare, ce qui n'est pas raconté dans les autres évangiles. Et c'est à partir de là que les autorités religieuses se mettent à comploter et que le complot aboutit à la crucifixion. Dans les autres évangiles, on a davantage l'impression de récits qui sont mis un petit peu côte à côte et la suite logique n'est pas très apparente. On ne voit pas toujours le lien qui unit ces récits. Jésus est présenté d'emblée et explicitement, Pierre l'a fait apparaître, comme Dieu. Il a parlé du Logos, mais comme Dieu. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et Jean est le seul à utiliser ce mot pour Jésus. Et c'est frappant parce qu'il le fait d'entrée de jeu. Et il le fait au début et à la fin de ce qu'on appelle le prologue. Donc au commencement était la parole était avec Dieu. Et puis juste à la fin de cette partie, avant la rencontre de Jésus qui est racontée après, on nous dit encore que Jésus est Dieu. Et c'est dit aussi à la fin de l'évangile. C'est Thomas qui voit Jésus et qui dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Donc c'est pas par hasard, c'est on met au début et à la fin les choses importantes et on le fait apparaître. Vous avez relevé la singularité qui est liée aux paroles de Jésus et même à sa façon de s'exprimer. Et je l'illustre par des traits qui sont par des traits suivants. Jean parle beaucoup de vie éternelle, alors que l'expression elle n'apparaît que très peu chez Matthieu, chez Marc et chez Luc. Et à l'inverse, si je puis dire, Matthieu, Marc et Luc parlent beaucoup du royaume de Dieu, ou bien du royaume des cieux. Et Jean n'emploie pas l'expression, ou l'emploie très très peu. Et quelqu'un a dit, Jésus qui est raconté par Jean a un langage par polarité, lumière, ténèbres. Voilà. Et dans la même veine, la longueur des discours de Jésus, ils sont souvent très longs chez Jean, très brefs dans les évangiles. Et on pourrait rajouter d'autres éléments. Et quelqu'un l'a dit, et j'étais intéressé de l'entendre, parce que il y a une singularité qui va peut-être tellement de soi qu'on ne s'en rend plus compte, et vous avez insisté là-dessus. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et si on est familier du christianisme, on est familier du fait que Jésus, l'histoire de Jésus, c'est l'histoire de l'amour de Dieu pour le monde, de l'amour pour ses disciples. Et je voudrais l'illustrer et y revenir par un texte qui va me servir un petit peu d'ancrage. C'est dans Jean, chapitre 15, les versets 9 à 13. Si vous voulez regarder dans vos bibles, je vous laisse un petit peu de temps. Si personne bouge, je lis. Jean 15, verset 9. Comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi, je vous ai aimé. Maintenez-vous donc dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, tout comme moi-même j'ai obéi aux commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Tout cela, je vous le dis, pour que la joie qui est la mienne vous remplisse aussi et qu'ainsi votre joie soit complète. Voici quel est mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme moi-même je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et Jean 3,16, Dieu a tellement aimé le monde. Alors, les questions d'amour les uns pour les autres, mais ça, c'est pas l'accent. Mais ce qui apparaît là, c'est l'amour du Père pour Jésus, l'amour entre le Père et Jésus, et l'amour de Jésus pour ses disciples. Alors, tout ça est très familier, on pourrait dire. Et pourtant, mesurons que Jean est en fait le seul auteur d'évangile qui nous le dit. Il nous le dit de manière explicite. Les autres n'en font pas mention de l'amour de Dieu, de l'amour de Jésus pour nous. On a, elle peut nous être devenue si familière cette idée qu'on a l'impression qu'elle remplit le Nouveau Testament. C'est pas vrai. Enfin, c'est pas le cas. Tous les évangiles n'en parlent pas. Et sans l'évangile de Jean, cette information, si je peux employer ce langage, elle manquerait. Et quelques chiffres. 10 fois dans l'évangile de Jean, on lit que Dieu aime. Et c'est 0 fois dans les autres évangiles. 11 fois dans Jean, on lit que Jésus aime. Et 1 fois dans Marc, et c'est intéressant, à propos du jeune homme riche, Jésus l'aima. 4 fois, c'est l'autre verbe aimer en grec, qui est employé par Jean et nulle part ailleurs dans les évangiles. Alors, je fais une parenthèse ici pour prévenir des malentendus. Je nous amène juste à constater que ni Matthieu, ni Marc, ni Luc n'emploient ce langage. Ça ne veut pas dire qu'ils ne seraient pas d'accord avec Jean. Ça veut juste dire qu'ils n'en parlent pas, c'est tout. Ça ne veut pas dire qu'ils seraient contre l'amour de Dieu. Non, mais ce n'est pas vrai, l'amour de Dieu. Non. Et j'aime bien dire, qui ne dit rien, ne dit rien. Parfois on dit rien, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas d'accord, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de commentaires à faire, ça veut dire juste qu'on a choisi de dire autre chose ou de ne rien dire. Quand on dit rien, ça veut juste dire qu'on ne dit rien. Donc c'est Jean et c'est Jean seul qui dit explicitement cet amour de Dieu, cet amour de Jésus pour les êtres humains, pour chacun d'entre nous. Parce que là c'est bien mignon les êtres humains, mais c'est chacun d'entre nous. Et c'est aussi frappant et très frappant de voir que ce langage sur l'amour, dans l'évangile de Jean, on le trouve à 90% dans les chapitres 11 à 21 de l'évangile. C'est-à-dire le moment où Jésus reste à Jérusalem, le moment où Jésus va donner sa vie en rançon pour nos péchés. Le vocabulaire de l'amour est le plus saillant au moment où Jean nous donne à voir que Jésus va, je cite Jean, donner la marque suprême de son amour pour eux. Pour reprendre l'expression de Jean 13. Et c'est ce que dit le texte que nous avons lu. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donc, 90% dans les derniers chapitres, j'ai envie de dire que l'amour en quantité, en pourcentage de paroles d'évangile, nous le lisons au moment où il s'incarne dans le don de Jésus. Donc Jean nous dit explicitement l'amour de Dieu et nous le dit de manière prépondérante au moment où il nous raconte la mort de Jésus pour les êtres humains, pour nous. Tel est le message. L'accent de l'évangile de Jean spécifiquement. Donc message qui s'adresse à nous, mais qui s'adresse, j'ai envie de dire, à toi et à moi. Et qui appelle une réponse de ma part, de ta part. Donc, singularité de l'évangile de Jean, il ne dit pas la foi comme les autres évangiles. Et je voudrais en conclure et partir de ce constat pour quelques prolongements. Et ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a plusieurs façons de dire la foi. Plusieurs façons de dire Jésus, qui sont toutes aussi légitimes les unes que les autres. Et je crois que c'est précieux de l'entendre. Je crois qu'être tenté, je crois que nous sommes tous tentés par la répétition, qui a son côté rassurant, par l'imitation, par la reproduction, mais je le dis quand même, donc. Le clonage, l'homogénéité, et du coup, plus insidieusement, tant nous sommes habitués à reprendre les choses, à, parfois à notre insu, à juger l'autre par rapport à son degré, lui, d'homogénéité, par rapport à ce que nous avons l'habitude de dire, à la façon dont nous avons l'habitude de le dire. À juger l'autre par rapport à la façon commune, habituelle, attendue, jugée respectable, jugée évangéliquement correcte, de parler de Jésus, de dire la foi, de la vivre, voire même la façon de faire ou la façon d'être. Et je veux illustrer quatre façons, ou cinq, j'en sais rien, enfin quatre au moins. J'ai envie de dire, il y a plusieurs façons de dire l'Évangile. Il y a plusieurs façons de dire notre foi entre nous. Il y a plusieurs façons de prier. Et il y a plusieurs façons de chanter. Je reste dans le registre de la parole. Plusieurs façons de dire l'Évangile. Eh bien, le message de l'Évangile, ça veut dire la bonne nouvelle. Donc, mais ça peut être dite de différentes façons. Et je suis touché de voir en lisant Jean que c'est même sur des points aussi importants que la mort de Jésus et son sens. L'Évangile peut être dit en termes de péché de l'être humain, de la venue de Jésus pour mourir pour nos péchés. Jean le fait. Mais si vous avez en tête le chapitre 1, au moment où, j'ai oublié son nom, enfin voit Jésus, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». C'est Jean-Baptiste. Donc il parle bien en termes de péché. Mais Jean dit aussi l'évangile, la bonne nouvelle, d'une autre façon, dans le texte que nous avons lu. « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » C'est pas le même langage, c'est une autre façon de présenter ce que Jésus a fait. Je crois que nous sommes chacun exposés à imaginer, chacun de nous exposé à imaginer que ce qui nous parle à nous va parler à l'autre. Parce que ça m'a bouleversé. J'ai lu un livre qui m'a... C'est vrai de plein de choses, mais c'est vrai aussi de l'Évangile. J'ai lu un livre qui m'a bouleversé, donc je te le lis, puis vous lisez le bouquin, puis vous avez même du mal à le lire. Ça ne fait pas pareil. De mon côté, j'ai été nourri, j'ai été stimulé par les livres de C.S. Lewis, Narnia, c'est... Voilà. Mais qui a écrit beaucoup de livres de défense de la foi, de manière très explicite. Narnia, il raconte aussi l'Évangile, mais au travers des images. Le lion qui se sacrifie pour que la, je connais plus l'histoire en détail, mais on est bien dans une imagerie chrétienne. Donc j'ai beaucoup aimé, entre autres, Pourquoi je suis chrétien, ou bien Les fondements du christianisme, il y a deux noms. Et du coup, spontanément, j'avais un ami, on faisait de la guitare ensemble, ici à Villefontaine, et je lui ai passé le bouquin. J'ai dit, tiens, tu t'intéresses, eh bien, je te propose de lire ça. Et lui, zéro, je suis zéro. Ça lui parle absolument pas, m'a-t-il dit, hein, après je suis pas dans sa tête, mais il a plutôt une approche bouddhiste, donc une approche d'expérience intérieure, etc. Et donc il voulait pas rentrer dans un processus de réflexion, parce que Lewis fait réfléchir, donc, un minimum. Conclusion, on apprend, hein. Il ne fonctionne pas comme moi, et j'aurais probablement mieux valu que je lui donne autre chose. Un témoignage, par exemple, ça aurait été, à mon avis, plus ajusté. Plusieurs façons de dire l'Évangile. plusieurs façons de dire sa foi entre nous. Alors je prends un exemple un peu caricatural, mais bon, c'est... j'ai envie de dire, le seul véritable chrétien n'est pas forcément celui qui, quand on lui dit « Alléluia !» répond « Ah, il y a des vrais chrétiens parmi nous. » C'est pas forcément celui qui, au moment d'une visite, avant de partir, va dire « Bon, on va prier ensemble. » Tant mieux si vous le faites, si c'est, ça vous correspond, si ça, fait, ça correspond aux besoins de l'autre. Mais c'est pas forcément que ce n'est pas la seule marque de vrai christianisme ou de christianisme. Il n'y a pas que certains sujets qui aient de l'intérêt. Je prends quelques-uns. Certains sont très, très prophétie. Le retour de Jésus. Le Saint-Esprit. Le feu, la puissance. Le réveil. Ah, le réveil. Pas que certains sujets qui aient de l'intérêt, ils ont leur intérêt, j'ai pas de souci, ou qui aient leur place en prédication. Mais je suis très frappé, en rencontrant d'autres croyants, combien d'un milieu chrétien à l'autre, il y a des thèmes qui sont mis en valeur, sur lesquels on revient très, très facilement, et je les vois chez moi aussi, hein. L'idée de vulnérabilité, elle m'habite, par exemple, et c'est lire l'Ecclésiaste et le proposer à la méditation, c'est être aussi dans des choses qui me concernent moi. Donc on est tous dans ça. Je suis frappé de voir que d'un milieu à l'autre, c'est chacun a un peu les choses qui lui parlent et qui sont mises en valeur, mais qui sont absentes d'autres milieux. Et au risque, le risque derrière, c'est de dire « Oui, mais c'est parce qu'ils ne sont pas chrétiens, en fait, hein, ou pas tout à fait vraiment chrétiens qui font pas ça. » J'ai fait la pub cette semaine, une fois de plus, pour la revue La Charrue. Alors, c'est pas parce que je suis d'accord avec ce qui est écrit dedans, hein, mais c'est parce qu'on lit autre chose. Quand est-ce que vous avez entendu une prédication sur le capitalisme? C'est le thème de La Charrue pour la dernière fois. En tout cas, c'est pas moi qui vais vous la faire. Hein, ça, je suis complètement incapable. Plusieurs façons de dire la foi entre croyants. Il y a plusieurs façons, vraisemblablement, je le crois, de prier, de parler à Dieu, de prier. Est-ce qu'il faut nécessairement avoir les un peu crispés, les yeux fermés pour prier, le corps un peu tendu? Est-ce qu'il faut s'exprimer avec une certaine tonalité, comme si elle était plus inspirée, comme si elle parlait mieux à Dieu? En fréquentant d'autres milieux, j'entends des choses qui sont de l'ordre de la tonalité, d'une ligne mélodique qui porte la prière. Et je vois la reproduction de la ligne mélodique. Vous allez me dire, je vais chercher des choses bizarres, mais c'est juste, j'ai pas cherché, ça, c'est juste comme ça. Est-ce qu'il nous faut prier avec un certain volume sonore, comme s'il fallait parler fort pour qu'il nous entende? Ou bien s'il parlait très mal, pas trop dire Dieu. Certains mots, je ne crois. Et je vois aussi que parfois, en valeur ou le sensationnel, la réussite, on se positive à nos prêts, puis reconnaissant et en même temps, est-ce qu'il passe pour exprimer autre chose? Mais c'est très, par exemple. Et mine avec ça, il y a probablement plusieurs aussi de chanter. Plusieurs de chants qui disent Dieu et nous tenir à Dieu. Et des vaillent qu'il vaut là peut-être prendre. De la cité au niveau de l'homme. Là, nous apprenons un teint de l'homme. Alors, c'est rien, bon, il y a l'ami que je trouve lente, etc. Mais j'aime bien, non, qui me fait faussement mis en choses qui, des rimes que je trouve pas vues ailleurs. Qu'aux quatre de la France. De l'Asie, de l'Amérique. Et tout d'un coup, des mots mis au sel à loin. Qui se voient dans notre. Et ça, il y a quelque chose pour moi, ouvre la respiration. C'est bon, parce que, d'un point de vue, un peu de. Je vois autre chose, quoi, au niveau des chandis, nous. Diversité des thèmes, de l'anité, même de la cité musicale. Je suis resté comme guitare, mais je suis un expert de la musique. Donc, c'est vrai. C'est que les fonds de jouer, de faire les accords, le jeu en ouvert, et de plus, presque ce qu'il faut jouer, que ça sonne aux jouanges. Et ça va bien, j'aime bien. Mais il y a une formité. On appelle aussi à la. Oui. Parce qu'on a aussi, j'aime beaucoup le chant, maintenant il commence à devenir plus point. T'as bien veillé, là aussi, il y a des façons, des choses qui sont pas. Des reproductions qui est collée de chant, et j'aime ça. Donc, je le constate dans l'évangile, plusieurs façons de ta foi et nous inviter à accueillir cette diversité. Cette diversité, je l'ai tous en tête, je la répudie, et puis on est tous ce qu'on a. Je vous rassure, elle nous fournit des points d'air et ils sont importants. Mais attention que face aux attentes, quand elle fasse son regard et quand elle veut un rôle déterminant sur nos jugements de valeur, ce qui est jugé important, ce qui est jugé crétin, ce qui est jugé valable, intéressant, et j'ai envie de dire, c'est le mot-clé, moi, humble. Ce serait peut-être là, bien souvent, que se situe l'enjeu pour nous, ces choses, la diversité, quand elle nous apparaît, parfois, nous avons du mal à l'aimer. On a du mal à tolérer, aimer ces choses. Et c'est précisément ce que j'ai lu tout à l'heure, c'est précisément à ça que Jésus nous appelle. À cet amour, les uns pour les autres, cette façon de faire, cette façon d'être, il n'y a pas une qu'on parle d'habitude que j'ai. Cet amour pour les autres, je voudrais relire le texte, terminer là. Jésus dit, vous obéissez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Voici quel est mon commandement. Aimez-vous les autres, comme je vous ai. Qui a aimé comme toi, Seigneur? Qui a incarné l'amour comme toi? L'évangile de Jean nous le dit, nous le fait paraître et nous y appelle. Et de moi et de nous, dans ma façon de dire la foi à l'extérieur, dans nos façons de vivre notre foi ensemble, de chanter, de dire et d'être, et de nous à être dans le mouvement de cet amour qui se donne, mais qui se donne même pour les choses, même pour les ennemis, même pour ce qui ne nous paraît pas aimable. Que ton amour nous habite et nous porte chacun dans notre vie de cette semaine.